Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Classification phylogénétique du vivant, tome 1. Dans sa quatrième édition revue et complétée, est un ouvrage de synthèse scientifique consacré aux relations de parenté entre les organismes. Écrit par Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader, il expose la classification phylogénétique. Méthode qui organise la diversité du vivant selon les ancêtres communs et les innovations évolutives partagées. Plutôt que selon une ressemblance générale, ou une hiérarchie centrée sur les humains. Le volume associe une introduction méthodologique à une série de arbres phylogénétiques commentés. Il aborde le vivant dans son ensemble, les bactéries, les archées, les eucaryotes, les bicontes, les chloroplastidés, les embryophytes et plusieurs grands ensembles de plantes à fleurs. Pour chaque groupe, les auteurs présentent les caractères dérivés qui soutiennent son identification, puis apportent des repères sur la diversité, les fossiles et les milieux de vie. Les illustrations de Dominique Vissette renforcent la fonction pédagogique de cette référence, conçue pour relier évolution, classification et biodiversité. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, classer le vivant selon les parentés plutôt que selon la ressemblance. Le principe directeur du livre consiste à remplacer une logique de classement fondée sur la ressemblance globale par une logique historique. Une classification phylogénétique cherche à représenter les relations de parenté issues de l'évolution un groupe valide, ou clade. Rassemble un ancêtre commun hypothétique et la totalité de ses descendants. La question centrale ne devient donc pas quels organismes paraissent semblables, mais quels organismes partagent des innovations héritées d'un même ancêtre exclusif. Cette différence modifie profondément les catégories familières. Des ensembles traditionnels tels que les poissons, les reptiles ou les invertébrés ne correspondent pas nécessairement à des lignées complètes et homogènes au regard de la parenté. Le livre aide ainsi à comprendre pourquoi les appellations courantes, utiles dans la vie quotidienne, ne constituent pas toujours des unités scientifiques. Cette approche répond au projet darwinien de faire de la classification une expression des affinités généalogiques. Elle évite aussi de placer les humains au sommet ou au centre du système toute lignée actuelle représente une branche ayant suivi sa propre histoire évolutive. Le résultat est moins intuitif au premier abord, mais plus cohérent avec les données de la biologie évolutive et avec la nécessité de distinguer proximité apparente. Héritage commun et convergence adaptative. Deuxièmement, les innovations évolutives comme preuve de la formation des clades, chaque arbre présenté dans le volume repose sur des arguments explicités par les auteurs. Les caractères dérivés, aussi nommés innovations évolutives, sont des traits apparus dans une lignée ancestrale puis transmis à ses descendants. Ils permettent de proposer des regroupements qui ne dépendent pas d'un simple inventaire de similitudes. Le livre explique ainsi la valeur comparative de la morphologie, de l'anatomie, du développement et des données moléculaires. Les séquences génétiques ne remplacent pas mécaniquement les autres observations, elles fournissent des indices supplémentaires qui doivent être confrontés aux autres caractères. Disponible. Cette démarche oblige également à distinguer homologie et analogie. Une structure homologue est héritée d'un ancêtre commun, même si sa fonction actuelle a changé. Une structure analogue peut remplir une fonction semblable chez des organismes éloignés sans provenir de la même structure ancestrale. Cette distinction protège contre les erreurs causées par les convergences évolutives. En présentant les caractères qui appuient les branches, le livre ne demande pas de mémoriser une nomenclature isolée. Il montre comment une hypothèse de parenté est construite, discutée et susceptible de révision. La classification apparaît alors comme une discipline argumentative, fondée sur des données et non comme un catalogue immuable de noms. Troisièmement, un parcours structuré depuis les bactéries jusqu'aux plantes à fleurs. Le premier tome offre une architecture qui va des grandes divisions du vivant vers une exploration plus détaillée de certaines lignées végétales. Les arbres annoncés couvrent le vivant, les bactéries, les archées, les eucaryotes, les bicontes, les chloroplastidés, les embryophytes et les principaux ensembles de angiospermes. Cette organisation permet de situer les plantes terrestres et les plantes à fleurs dans une histoire beaucoup plus vaste, qui inclut les lignées microbiennes et les grands changements cellulaires. Elle rappelle notamment que la diversité biologique ne se réduit ni aux animaux ni aux espèces les plus visibles. Le choix de développer les angiospermes donne une place importante aux monocotylédones, aux eudicotylédones, aux rosidés et aux astéridés. Ce cadrage est essentiel pour comprendre que les catégories botaniques correspondent à des hypothèses de parenté et non à de simples critères pratiques. La séparation en deux tomes doit cependant être prise en compte, le traitement détaillé des métazoaires appartient au second volume. Le présent tome ne constitue donc pas une encyclopédie uniforme de tous les organismes. Sa cohérence tient plutôt à une progression qui donne les fondations de la classification moderne, tout en accordant une attention particulière aux végétaux et aux lignées qui conduisent aux plantes terrestres et aux plantes à fleurs. Quatrièmement, des fiches de groupe qui relient caractères fossiles et écologie. La valeur pédagogique de l'ouvrage provient aussi de son format de consultation. Pour les groupes étudiés, les auteurs ne se limitent pas à tracer des embranchements, ils associent la position sur arbre à une description générale. Au caractère propre du groupe, au nombre de espèces, aux plus anciens fossiles connus, ainsi que, selon les cas, à des indications de distribution géographique et écologique. Cette combinaison donne un sens biologique au nom de clade. Un groupe ne se réduit pas à une étiquette sur un schéma. Il renvoie à une histoire de transformation, à une diversité actuelle et à des traces dans le temps long. La présence des fossiles est particulièrement utile, car elle permet de distinguer la date connue de l'apparition d'un groupe de la date réelle, souvent inaccessible, de son origine. Les informations écologiques montrent de leur côté que la parenté ne détermine pas une unique manière de vivre des descendants apparentés, peuvent occuper des milieux et des fonctions très différentes. Les dessins scientifiques de Dominique Vissette complètent ce dispositif en rendant observables les formes, structures et organismes évoqués. Le lecteur peut donc circuler entre arbres, arguments anatomiques, données paléontologiques et diversité contemporaine. Cette articulation fait du livre un outil de raisonnement comparatif autant que de documentation naturaliste. En dernier lieu, une synthèse scientifique assumant le caractère révisable des arbres. La quatrième édition a été entièrement remaniée afin de tenir compte des découvertes disponibles au moment de sa publication. Cette actualisation est importante dans un domaine où les nouvelles données morphologiques, fossiles et moléculaires peuvent modifier les hypothèses de parenté. Toutefois, le livre ne présente pas cette mise à jour comme un aboutissement définitif. Les auteurs soulignent que la phylogénétique produit des propositions scientifiques soumises à la discussion et à la réfutation. Cette prudence constitue une leçon de méthode. Un arbre phylogénétique représente la meilleure hypothèse soutenue par un ensemble de données, et non une image directement observée du passé. Le lecteur est ainsi invité à comprendre les conditions de validité d'une classification, plutôt que de croire à une succession fixe de catégories. Les chapitres introductifs apportent un contexte historique et conceptuel en revenant sur les systèmes de classification, leurs fondements, les méthodes contemporaines. Les horloges moléculaires, les fossiles vivants et le statut délicat des ancêtres ou des formes intermédiaires. Un lexique aide à maîtriser un vocabulaire parfois technique. Cette dimension réflexive distingue le livre d'un guide de détermination ou d'une simple flore. Il enseigne les outils intellectuels nécessaires pour interpréter les classifications, leurs changements et leurs limites. En conclusion, ce premier tome convient aux étudiants en biologie, aux enseignants, aux naturalistes et aux lecteurs disposant de bases scientifiques qui souhaitent comprendre la logique de la classification contemporaine. Il peut également servir aux amateurs très motivés, à condition d'accepter une terminologie précise et une lecture parfois dense. Son intérêt pratique est double, il aide à réviser les grands groupes du vivant et surtout à interpréter avec rigueur les arbres phylogénétiques, les caractères homologues et les débats sur les catégories traditionnelles. Le lecteur y gagne une vision moins anthropocentrée de la biodiversité et des repères solides pour évaluer les affirmations courantes sur la parenté entre organismes, par rapport à un manuel général de zoologie, de botanique ou de anatomie comparée. Cet ouvrage se distingue par son organisation entièrement structurée autour des hypothèses phylogénétiques justifiées, par rapport à une introduction brève à évolution. Il apporte une documentation beaucoup plus ample, avec des fiches de groupe, des données fossiles et écologiques, ainsi que des illustrations scientifiques détaillées. La quatrième édition se démarque aussi par son effort de mise à jour et par la clarté avec laquelle elle expose le caractère provisoire des reconstructions évolutives. Le découpage en deux volumes limite la couverture détaillée des animaux dans ce tome, mais donne à celui-ci une forte cohérence autour des fondements du vivant et des lignées végétales. Il demeure ainsi une référence exigeante, conçue pour apprendre non seulement quelle classification utiliser, mais pourquoi elle doit être formulée de cette manière. Si vous souhaitez soutenir Hervé Le Guyadet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.